Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission de vous retrouver sur cette antenne, mais également sur RTL.fr et l'application RTL. Nous sommes ensemble, je vous le disais, jusqu'à 15h30 et je vous attends pour converser et réfléchir. 3210, les réseaux sociaux, cette émission est la vôtre. Place au sujet du jour. Un médecin avec sa science profonde guérit bien des esprits malheureux, sauve bien des âmes entraînées. Pense enfin beaucoup de ces blessures qui ne saignent pas au dehors, qui n'ont de traces que dans un pli du front et qui rongent le cœur de ceux qui les ont reçues, a écrit un jour Alexandre Dumas. Plus que jamais, depuis un an, notre lien avec ceux qui prennent soin de notre santé occupe une place essentielle dans notre vie. Alors pourquoi la relation entre un médecin et son patient est-elle si importante? De quoi avons-nous besoin dans notre rapport avec notre généraliste ou les spécialistes que nous auscultons? Que peut-on attendre d'eux? Nos invités aujourd'hui sont tous les deux médecins. Docteur Antoine Pio, bonjour.
Enchanté.
Merci d'être avec nous, vous nous le direz dans une heure. Vous êtes médecin, gériatre au CHU de Toulouse, chroniqueur au magazine de la santé un mardi sur deux, c'est sur France 5 à 13h, et auteur du livre « Quand je serai heureux, tout ira bien » aux éditions Hachette.
Quand je serai vieux.
Quand je serai vieux.
Je serai heureux.
Vous savez, il y a des lapsus comme ça. Il y a des lapsus d'ailleurs qui en disent long.
Ouais,
qui en disent long.
L'esprit.
Quand je serai heureux, tout ira bien. Quand je serai vieux, tout ira bien. Aux éditions Hachette Pratique. Ah bah tiens, justement, est-ce que c'est votre rôle de médecin de saisir ce que l'on ne dit pas et ce qui bien souvent s'exprime entre les lignes? Parce que vous venez de le faire, me concernant.
C'est bien entendu le rôle du médecin, mais c'est de manière générale un point capital dans la communication. Et on le dit souvent, la communication verbale est importante, mais 90% du message est non-verbal, c'est-à-dire dans votre attitude, la manière dont vous le dites. Et bien entendu, en médecine, c'est la même chose et c'est même exacerbé. Donc on doit être très attentif à tout ce que nous renvoie un patient, tous les signaux, et y compris les non-dits, bien entendu.
Et comme l'écrivait Alexandre Dumas, les plis du front
et
les douleurs que l'on reçoit. Bonjour Baptiste Beaulieu, docteur Beaulieu.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu sur RTL, docteur Beaulieu. Vous êtes romancier, vous êtes médecin, et fin avril sortira votre livre « Celle qui l'attendait » aux éditions Fayard. Baptiste, en ce moment, docteur Beaulieu, pardonnez-moi, les choses en ce moment sont un petit peu compliquées, hein, évidemment. D'ailleurs, on ne peut que saluer le corps médical hein, sur le front de cette pandémie.
Oui.
Et en même temps, on a des auditeurs qui sont un petit peu perdus, docteur. Pierre nous écrit, il y a un an, mon médecin me disait que le Covid n'était qu'une grippe, que les masques ne servaient à rien, qu'il fallait arrêter tout ce tapage médiatique. Il y a 6 mois, il me disait que le masque était indispensable pour protéger les autres et qu'il fallait absolument laver son linge à 60 degrés. Je l'ai vu la semaine dernière, il me dit maintenant qu'une lessive à 30 est suffisante et il me propose le vaccin AstraZeneca sans réel risque selon lui. Tout cela n'est pas très rassurant. Alors évidemment, d'autres viennent, pardonnez-moi, à la rescousse. Hein. Marc, partant du principe que nous sommes tous humains, je conçois que les médecins puissent ne pas avoir la science infuse, douter, se tromper. Cette crise du Covid est très difficile pour tout le monde. Chacun fait comme il peut avec les moyens du bord. Les médecins reçoivent tellement d'informations qu'ils se contredisent. Difficile aussi pour eux de s'y retrouver. Alors pardon, je mets les pieds dans le plat direct. Mais voilà les messages que l'on reçoit aujourd'hui, docteur Beaulieu.
Et oui, mais je comprends tout à fait. Après, il y a deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que cette pandémie qui est due à un virus inconnu et qu'on découvre en même temps que la population générale, nous force à faire preuve d'un petit peu d'humilité. Et vous savez, parfois chez les médecins, c'est un peu difficile l'humilité. Et deuxième chose, je crois que c'est très important d'expliquer ouvertement aux patients qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ou que ce qu'on pense aujourd'hui est vrai peut être amené à changer demain en fonction de ce que nous diront les autorités sanitaires.
Alors, est-ce que ça induit aussi, docteur Pio, que le lien au médecin aujourd'hui, qui auparavant était sacralisé peut-être hein, et en toute confiance, est un lien qui s'humanise encore par une forme de vulnérabilité face à ce qui nous arrive tous?
Alors, je pense déjà que les gens n'attendent absolument pas la même chose de leur médecin aujourd'hui et il y a 40, 50 ans. Maintenant,
ouais,
ils veulent beaucoup plus être acteurs de leurs soins, experts de leur santé. C'est une très bonne chose. Et le fait qu'ils aient accès à beaucoup d'informations est une bonne chose. Et ensuite, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Autrement dit, je crois que le corps médical est en train de payer sa trop forte assurance pendant des décennies où on a laissé entendre que la médecine était une science exacte, alors que c'est pas ça du tout. La médecine, c'est du consensus, de la discussion. Et on lève juste le voile sur ce qui se passe en coulisses, mais le Covid n'est que la Covid n'est que le révélateur. C'est comme ça que fonctionne la médecine dans les faits.
Vous le sentez, Baptiste Beaulieu, justement, ce virage
oui,
que tout le monde est en train de prendre?
Tout à fait. Et je crois que on a parfois un petit peu oublié d'expliquer aux patients que notre rôle, c'est d'avoir une obligation de moyens, mais pas de résultats. Et ça va également pour les réponses qu'on peut apporter aux gens. Et on a tellement eu tendance à vouloir absolument, comment dire, tout verrouiller, savoir tout, répondre à toutes les questions des patients pour ne pas, quelque part, avouer notre ignorance sur certains sujets, qu'on a eu, je pense, tendance à faire preuve d'un petit peu d'orgueil sur ces sujets-là. Et ce serait bien, je crois, qu'on fasse preuve d'un peu plus d'humilité à partir de maintenant.
Carole nous écrit: mon médecin était honnête dès le début. Il m'a dit que personne ne pouvait affirmer quoi que ce soit sur cette maladie. Il m'a invité à écouter mes besoins pour me protéger et protéger les miens, et s'est montré disponible pour répondre à toutes les questions que je me posais. Voilà ce que j'attends du médecin, de la transparence, une communication positive et de la confiance. On va se retrouver dans un instant, messieurs, avec nos auditeurs. C'est Gérard qui habite à Strasbourg. Il va intervenir et discuter justement avec nous de ce sujet qui nous passionne et ô combien important en ces temps troublés. Nous sommes en direct jusqu'à 15h30. À tout de suite sur RTL.
Sa vie flamand sur RTL. Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Pourquoi la relation entre un médecin et son patient est-elle si importante? Au-delà des compétences, qu'est-ce que l'on attend de notre médecin aujourd'hui? On est en ligne avec le docteur Baptiste Beaulieu, que l'on remercie d'être avec nous. Dans ce studio, le docteur Antoine Piau, qui est médecin gériatre au CHU de Toulouse et chroniqueur au magazine de la santé. Et Gérard qui nous rejoint sur cette antenne. Gérard, bonjour.
Bonjour famille.
Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Vous avez 69 ans, vous vivez du côté de Strasbourg, Gérard. Ouais. Quelle est justement la relation que vous entretenez avec votre médecin aujourd'hui? En tout cas, est-ce que vous avez le sentiment que depuis un an, puisqu'on parlait de l'actualité hein, et qui nous met tous à mal en ce moment, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ne sont plus les mêmes?
Pas spécialement, ça dépend des personnes.
Hein. Oui, c'est-à-dire
avec le médecin, ce qu'il faut, c'est essentiellement quelque chose d'une franchise complète et chacun dit ce qu'il pense.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre médecin?
Qu'il me conseille par rapport aux problèmes. C'est tout.
D'accord. Donc, quand vous allez voir votre médecin, vous y allez toujours pour une raison très précise, ou est-ce qu'il vous arrive de pénétrer le cabinet de votre médecin et de ne pas d'être dans un doute ou d'en attendre plus que la simple auscultation?
Non, c'est vraiment pour un problème réel. Hein. Sinon, on va pas l'embêter.
Ah, alors c'est marrant ça. Qu'est-ce que vous entendez par « on va pas embêter le médecin » ?
Bah, il a d'autres choses à faire.
C'est-à-dire?
Bah, s'occuper des vrais malades.
Ah, et alors donc, ça veut dire que vous n'êtes pas toujours un vrai malade?
Bah non, heureusement.
Alors, c'est quoi un vrai malade?
Bah, ça peut être quelquefois des personnes psychiques qui se sentent malades et qui ne le sont pas. Hein. Prenons les hypochondriaques, hein, qui sont des débiles. Enfin, ça, c'est leur problème. Hein.
Oh bah dis donc, vous y allez fort quand même, moi je trouve, bah oui. Gérard. Parce que moi, il m'arrive, figurez-vous, d'être tout à fait hypochondriaque et d'aller voir mon médecin. Et je ne suis pas débile pour autant, comme vous le dites si bien.
Oui, mais quand je dis quelque chose, je le dis d'une certaine façon. Oui. Je suis assez provocateur.
Mais j'entends ça. Non, mais alors ça veut dire que pour vous, on ne peut pénétrer le cabinet d'un médecin que pour de vraies bonnes raisons.
Il me semble.
D'accord. Alors, je vais me tourner.
Chacun fait comme il le pense.
D'accord, ok, oui, j'ai bien compris. Vous attendez d'un médecin qu'il soit une figure d'autorité?
Non, pas vraiment. D'accord. Qui donne vraiment les conseils adaptés.
Vous avez un médecin généraliste?
Ah, tout à fait.
D'accord, que vous voyez tout le temps, toujours le même?
Ah, ça fait maintenant 4 ans. Avant, il a remplacé le médecin précédent.
D'accord.
Et là, il était urgentiste et c'est pas mal. Il a un apport spécifique.
D'accord. Bon, alors, il y a plein de choses qui ont été dites. Docteur Beaulieu.
Oui, il y a beaucoup de choses.
Alors, tout le monde n'est pas éligible à un rendez-vous chez le docteur, visiblement. Hein.
Non, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il exprime une chose qui est importante pour moi, c'est d'assurer par l'écoute ce qu'on appelle la neutralité empathique, c'est-à-dire les conditions d'un lieu d'accueil qui est paisible et possible pour accueillir la plainte du patient. Alors cette neutralité empathique, pour le soignant, concrètement, ça signifie de laisser deux choses au vestiaire. Ces stéréotypes et ces préjugés, on en a tous, évidemment. Et la deuxième petite chose, c'est de se rappeler régulièrement que nous ne sommes pas les papas et les mamans de nos patients. On leur doit une information claire et circonstanciée. La décision appartient aux patients, c'est leur corps, c'est leur choix. Et si je peux juste ajouter une petite chose, parce que monsieur a parlé de la santé mentale et avec un petit peu de dédain. Et vous savez, la santé mentale, c'est la grande oubliée en santé
et
publique.
En ce moment, en plus.
Et surtout en ce moment.
C'est clair.
Et ça m'embête toujours un petit peu parce que la santé mentale, c'est pas parce que c'est moins objectivable que la maladie physique. Par exemple, si je vous dis, Flavie, votre bras est cassé, je le vois sur une radiographie, on peut pas au moins le dire pour les maladies mentales. Et pourtant, elles sont réelles, elles ont
bien
un
sûr.
Vrai impact sur la population.
Bien sûr. Docteur Pio, une
alors,
réaction.
Oui, deux réactions, je dirais. Alors, il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit par notre auditeur. C'est le décalage entre les attentes du patient et ce que croit le médecin. Et ça, c'est un dogme qui perdure chez les médecins de penser que les patients attendent des prescriptions, des examens complémentaires. Or, qu'en réalité, quand on pose la question au patient, ils attendent un avis, de la réassurance, de l'information. Et ce décalage, vraiment, gagnerait à être réduit. Alors, la deuxième chose, effectivement, bon, je rejoins ce qui a été dit, et ça met en exergue un gros défaut de nos systèmes de santé qui est réactif en attendant le client, en attendant l'accident, en attendant la plainte, en attendant le vrai patient, entre guillemets. Alors qu'il faudra agir bien en amont. Et c'est bien là tout le défaut de notre médecine, d'être réellement curative et de ne pas être axée sur
préventive.
La prévention.
Ouais.
Donc là, pour le coup, ça met l'accent sur un gros, gros problème de notre système.
Et aussi, je parlais d'éligibilité, docteur Beaulieu, Baptiste Beaulieu. Certains ont l'impression que pousser la porte d'un cabinet nécessite une succession de mots, une accumulation de mots. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut être mourant pour passer la porte du cabinet, mais le nombre de personnes qui estiment que ça n'est pas nécessaire d'aller voir le médecin ou que c'est lui faire perdre son temps. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ?
On peut leur dire que la mission du médecin, particulièrement du médecin généraliste tel que l'a défini l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est de s'occuper de la santé physique, évidemment, de nos patients, hein, mais également de la santé mentale et de la santé sociale. Ça veut dire que, ouais. Par exemple, un patient qui est au chômage a plus de risques de développer des troubles physiques, des maladies physiques, qu'un patient qui a un travail qui lui plaît et vers lequel il se tourne tous les matins, la fleur au fusil. Content d'y aller, quoi. Et donc, non, c'est une fausse idée que de penser qu'on est là que pour les bobos physiques. Et comme le disait très justement le docteur Pio, on est là aussi pour la prévention et prévenir, c'est guérir.
Ce qu'a souligné Gérard, c'est la relation au médecin généraliste qui pourrait aussi, et c'est ce que vous soulignez dans la relation aussi, hein, docteur Beaulieu, qui pourrait s'apparenter à ce fameux médecin de famille qu'on a tous eu, je dirais, quelque part dans notre enfance. On a l'impression que le médecin de famille est en voie de disparition parce que peut-être aussi que les contours de la médecine aujourd'hui généraliste sont en train de changer. On va se retrouver dans un instant, en discuter ensemble. Gérard, merci pour votre témoignage et tous les hypochondriaque vous salue. Et je vous remercie d'avoir témoigné sur cette antenne. C'est Agnès qui va nous rejoindre dans un instant.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct comme chaque jour pendant une heure pour discuter avec vous aujourd'hui de notre relation à notre médecin. Pour certains, c'est une figure d'autorité impressionnante. On y reviendra avec nos invités, le docteur Antoine Pio et le docteur Baptiste Beaulieu. On parlait du médecin de famille, docteur Pio. Moi, quand j'étais gamine, on avait un médecin dit de famille, c'est-à-dire qui s'occupait de l'ensemble de la famille et qui faisait presque partie intégrante de la famille, tellement on s'en remettait à lui pour le petit bobo, ou même ça allait de la crise de dents à la crise d'adolescence, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui allait, je dirais, presque au-delà de l'acte de l'auscultation.
Alors je suis très méfiant déjà avec les comparaisons avant-après, parce que finalement, quand on a 20 ans ou 50 ans, à 30 ans d'intervalle, on n'a pas les mêmes attentes ni la même perception de sa relation au médecin, donc je suis toujours un peu dubitatif là-dessus. Et après, oui, on avait un médecin de famille relativement paternaliste et on faisait pas ce qu'il nous disait. C'est-à-dire que toutes les études ont montré que à peu près la moitié, voire les deux tiers de ce qu'il nous disait, on le faisait pas, et la moitié des médicaments qu'il nous prescrit partent à la poubelle. Donc ça interroge justement sur la pertinence de ce genre de relation. Et d'ailleurs, à l'époque, on parlait d'observance. Avez-vous bien observé ce qu'a dit monsieur le médecin ? Maintenant, on parle beaucoup plus d'adhérence. Est-ce que vous adhérez à ce qu'il vous a proposé ? Donc finalement, on rééquilibre un peu les rôles, et à titre personnel, je trouve que cette évolution a peut-être des effets négatifs, hein, je ne dis pas l'inverse, mais a aussi beaucoup d'effets positifs.
Alors bien évidemment, tout ceci, les choses ont changé aussi parce qu'il y a une désertification aujourd'hui.
Absolument, hein, qui travaille beaucoup moins
médical,
seul.
Médical, voilà, exactement. Mais on y revient avec Agnès, si vous le voulez bien. Bonjour Agnès.
Bonjour Fanny.
Soyez la bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous Agnès. Vous vivez près de Cambrai, ça fait presque 30 ans que vous êtes suivie par le même médecin, même si vous avez déménagé, un médecin de village. Est-ce que vous vous retrouvez dans la définition qu'on vient de donner du médecin de famille?
Oui, je m'y retrouve. 30 ans, ça crée des liens. Hein.
Bien sûr.
C'était le successeur du médecin de famille que j'avais quand j'étais petite. Mmh. Et ça a été le médecin de mes enfants, de toute la famille.
Et quelle place a-t-il tenu justement dans votre famille et auprès de vos enfants?
Ben, une place importante. Quand on parle de lui, c'est leur référence. Et ils habitent tous loin de moi. Et il arrive qu'ils aillent le consulter quand ils reviennent.
Il était au courant de tout ce qui se passait dans la famille, donc très certainement,
oui,
au-delà même des petits bobos ou des,
oui,
gros bobos.
Oui.
Donc ça voulait dire aussi qu'il était soutien parfois psychologique.
Oh oui, énormément. Oui. J'ai eu une période difficile et il a été là et c'était très bien.
Dans vos relations intrafamiliales, la relation que vous aviez avec vos enfants ou avec votre mari, je ne sais pas, est-ce qu'il était au courant de tout ça? Est-ce que vous parliez, oui, d'autre chose que la santé?
Alors je parlais bien sûr essentiellement de la santé. Mmh. Mais pas que, parce que ce médecin est devenu un copain, parce que dans un village, on a, ouais, là, des occasions de se voir en dehors.
Ouais.
Donc, j'avoue que parfois, je le vois régulièrement, j'ai une pathologie qui fait que je le vois tous les deux mois. Mm-hmm. Et c'est vrai que parfois, on parle de nos vacances, de nos petits-enfants. De... Mm.
Est-ce que sa présence, ne serait-ce que sa voix, ou le fait d'aller vous voir, vous rassure?
Oui.
Au-delà, oui, même de ses compétences.
Oui, oui. Et oui. J'ai toute confiance en lui. Mm-hmm. Pour tout dire, là, j'envisage de quitter la région pour aller vivre ailleurs. Et j'y ai pensé déjà plusieurs fois, me dire, ah là là, je ne le verrai plus.
Et ça vous inquiète?
Ça fera partie des choses... Voilà, qui sont inéluctables, mais ouais, je pense que ça va me manquer.
Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas aisé, au bout de 30 ans avec le même médecin, de créer un lien avec un nouveau médecin dans une autre ville que vous ne connaissez pas?
Oui, peut-être.
Parce que c'est intéressant, vous nous dites que c'était le successeur donc, du médecin de famille. Mais si, oui, ça n'avait pas été un bon médecin ou une tête de cochon, ou je ne sais quoi, pour parler poliment, vous ne l'auriez pas gardé.
Non, mais parce c'est que... une tête de cochon, mais je le garde quand même.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire, si ça avait été, s'il ne vous avait pas convenu. Parce que c'est intéressant, parce qu'un médecin
que
se choisit
gardé,
aussi.
C'est...
D'accord, ok, donc
c'est
vous seriez à l'ailleurs.
C'est important d'être en, voilà, confiance et un peu rassuré, guidé. Quand même pas une profession innocente.
Ah, je suis d'accord avec vous. Docteur Piau, vous étiez en train d'écouter Agnès et vous me faites signe.
Oui, c'est très intéressant ce qu'elle dit, parce que finalement, ça montre qu'on aurait tort de juste regarder l'évolution du médecin généraliste isolément. C'est la société qui a changé et aujourd'hui, il est beaucoup plus rare de passer toute sa vie au même endroit. Et cette mobilité de fait rend plus difficile cette continuité de prise en charge. Et pour le coup, Agnès a vraiment raison. Aujourd'hui, une des grosses problématiques en médecine, c'est de pas casser ce fil d'information. Comment faire en sorte que toute cette information médicale familiale qui a été accumulée au cours d'années et d'années de suite ne soit pas perdue quand on déménage, quand on voit un autre médecin, quand on voit un spécialiste. Et ça, c'est capital, parce que ces ruptures de soins, ces ruptures dans ces pertes d'informations ont des conséquences médicales parfois graves. Donc pour le coup, elle a vraiment le raison de souligner cet aspect.
Docteur Beaulieu, j'étais en train de parler tout à l'heure de désertification médicale et en même temps, paradoxalement, c'est vrai qu'on peut choisir son médecin. C'est important, hein, d'ailleurs, de tous se choisir. Là, aujourd'hui, il y a de moins en moins de médecins dans les villages. C'est une réalité de la société française. Et donc, pour le coup, c'est déstabilisant pour...
Bien sûr, et c'est important de rappeler que quand on parle de désertification médicale, les gens s'imaginent toujours que ça touche évidemment le milieu rural, mais il faut savoir que par exemple, quand vous avez un an de rendez-vous avant de voir un ophtalmologue, ou que votre médecin généraliste tout simplement vous expédie en 6-7 minutes, ce temps de consultation raccourci, c'est aussi un effet du désert médical. C'est-à-dire que quand moi, je vois entre guillemets 20 patients par jour, j'ai le temps dans la journée de leur accorder un petit peu de temps. Quand j'en vois 40 parce que c'est une pandémie ou qu'il y a la grippe, etc., et qu'il y a de moins en moins de médecins dans le bassin toulousain où j'exerce, évidemment que ce temps de consultation raccourci, c'est du désert médical.
Évidemment, mais est-ce qu'on peut encore choisir son médecin? On va y revenir dans un instant parce que on a le sentiment que ça n'est plus si facile que ça, en fait, en réalité. Il faut trouver le médecin dispo, quoi. Hein. On va y revenir dans un instant, si vous le voulez bien, docteur Pio, parce qu'il y a la santé aussi de notre société, de notre monde. On va passer par l'information pour aller prendre le pouls, si vous le voulez bien, de l'actualité. Merci beaucoup, Agnès, d'être intervenue sur cette antenne. Prenez bien soin de vous et
merci
à bientôt
beaucoup.
Sur RTL. Place à l'info.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Ils sont là pour répondre à vos questions. Deux docteurs pour le prix d'un, dites donc. Docteur Baptiste Beaulieu en ligne avec nous, il est romancier et médecin. Et le docteur Antoine Pio dans ce studio qui est médecin gériatre et chroniqueur au santé, au magazine de la santé. Pardon, on parlait de la désertification, du désert médical en France. GB sur Facebook nous écrit, j'avais un médecin de famille depuis 30 ans, donc à l'instar d'Agnès il y a un instant. J'ai vu que son cabinet était dorénavant fermé. Je pensais qu'un médecin qui cessait son activité avertissait sa clientèle, ne serait-ce que pour récupérer ou transférer son dossier médical, mais je n'ai point eu de contact, je l'aimais beaucoup et ça c'est dommage. Vous vouliez revenir sur le désert médical.
La notion de désert médical, c'est, malheureusement ce ne sont pas des déserts que médicaux et bien souvent ce sont des déserts du service public en général, d'attractivité, et le médecin il veut bien aller s'y installer, mais il faut qu'il scolarise ses enfants, qu'il ait potentiellement un collège, un lycée, donc c'est un vrai problème la désertification médicale, mais de manière générale je crois que c'est un problème de politique territoriale et d'occupation du territoire. On aurait tort de ne le résumer qu'un problème de santé.
Docteur Beaulieu, lorsque l'on se fait, pardon, je mets d'énormes guillemets, mais lorsque l'on se fait planter par son médecin qui ferme, qui cesse son activité et qui ne donne pas de nouvelles, je peux comprendre, parce qu'on interroge aujourd'hui hein, la relation que l'on a à notre médecin, je peux comprendre qu'on ait un sentiment d'abandon.
Et
ça fait peser sur vos épaules beaucoup de choses quand même.
Moi je reprends le témoignage d'Agnès tout à l'heure parce que c'était un très beau témoignage où on lisait entre les lignes l'amitié qu'elle pouvait porter à son médecin. Ouais. Et je crois qu'on doit être digne de cette confiance qui nous est accordée parce qu'on accompagne les accidents de la vie, des événements qui touchent les familles, on est sur leur trajectoire, à la croisée de leur chemin. Alors ne pensez pas qu'on soit insensible à cela, mais c'est vrai que parfois, je pense notamment à certains médecins qui tombent malades, parce qu'il arrive que des médecins tombent malades aussi, ou qui tombent simplement en burn-out, parce que les conditions d'exercice aujourd'hui sont particulièrement difficiles, et qui ne sont plus en capacité, peut-être parfois, de prévenir en amont les patients qu'ils vont cesser leur activité, quoi.
Alors, est-ce que ça, justement, ça fait peser sur vos épaules, docteur Beaulieu, beaucoup plus qu'on ne l'imagine? Est-ce que parfois, vous avez le sentiment que votre patientèle, pardon de le dire comme ça, mais est particulièrement exigeante à votre endroit et vous en demande peut-être plus que ce que vous ne pouvez donner?
Alors, ça, c'est le cas. Pas tous les patients, mais je vous livre une petite anecdote. Je travaille avec un associé qui est plus âgé que moi et que j'apprécie beaucoup et qui a donné toute sa vie à ses patients et qui, un jour, m'appelle un matin. Il était aux urgences pour un problème de santé. Il me demande de le remplacer au pied levé. Et donc, aucun problème. Et j'arrive devant le cabinet médical et des patients étaient déjà là. Et donc, quand je leur explique que je remplace mon associé parce qu'il est aux urgences, la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est « Mais donc, c'est quand même ouvert ce matin, et j'aurais bien aimé qu'il me demande comment va-t-il.
Oui, donc ça veut dire que parfois vous êtes confronté à une forme, pas d'ingratitude, mais une incompréhension, ou en tout cas vos patients ne mesurent pas l'investissement.
Malheureusement, je crois que ça va de pair un petit peu avec une ubérisation un peu de la société. Alors, où on consomme et on consomme aussi ce qu'on consomme. Oui. Et en l'occurrence là, je sais que beaucoup de mes collègues se sentent parfois un tout petit peu consumés par leur métier.
Est-ce que c'est un sentiment que vous avez aussi, que vous partagez avec vos confrères, docteur Antoine Pio?
Mais c'est vrai qu'on est entre plusieurs feux. On est entre le feu de l'administration, des tutelles qui nous demandent d'être efficaces. Et c'est bien normal, parce qu'il faut rappeler qu'on est quand même tous rémunérés grâce aux impôts de Monsieur Tout-le-Monde. Et d'un autre côté, une demande croissante, alors croissante, je ne sais pas, en tout cas une demande persistante des patients, des familles, de résultats. Et c'est bien légitime aussi. Donc en fait, on est sous le feu de demandes qui sont toutes légitimes. Et parfois, c'est un petit peu dur d'arbitrer et de satisfaire tout le monde.
Franck nous écrit, un médecin généraliste m'a littéralement hurlé dessus un jour, pardon messieurs, hein, parce que vous êtes au front surtout, on vous adore, hein, mais je vous lis les messages qui nous arrivent. Hein. Oui, mais c'est parce que ça veut dire que ça marque, en fait. Hein, ça m'intéresse de comprendre ce que l'on attend de vous et comment vous le vivez. Un médecin généraliste m'a littéralement hurlé dessus un jour comme on gronde un enfant parce que j'avais une boule dans le cou et je craignais que ce soit un cancer. Il en avait marre que les patients lui parlent de cancer à longueur de journée. Mais enfin, pourquoi fait-il ce métier s'il est agacé dans l'incapacité de rassurer les gens qui viennent le voir? Depuis, je mets carte sur table dès le premier rendez-vous en expliquant au médecin ce que j'attends de lui. Confiance, écoute, humanité, bienveillance, comme ça, pas de mauvaise surprise. Docteur Piau.
Ouais, c'est difficile de ne pas lui donner raison.
Non, mais est-ce que ça, c'est du craquage? Oui, mais est-ce que ça peut être lié au craquage? C'est-à-dire, j'en ai ras-le-bol qu'on me parle de cancer toute la journée, alors que vous n'avez que...
On n'y était pas, mais ça ressemble effectivement à un petit burn-out express. Et effectivement, pour le coup, le patient a raison d'être choqué. Il a raison d'exiger autre chose de son médecin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, très honnêtement, je ne me permettrai pas de juger la situation. Mais c'est effectivement, on peut espérer que c'était un burn-out et que ça n'était pas autre chose.
Alors, la respectabilité du médecin et le fait qu'il fasse figure d'autorité. Vous détenez, messieurs, une science que l'on ne maîtrise évidemment pas. Vous détenez une science faillible, on l'aura bien compris, vous êtes en train de le vivre depuis un an. Et on parle de notre santé, donc on parle de notre vie, hein, donc on parle de notre pouvoir vital. On va y revenir dans un instant parce que pour certains d'entre nous, vous êtes impressionnants. Et donc vous êtes des figures d'autorité que l'on respecte mais que l'on craint aussi. Et on a des messages qui vont dans ce sens. À tout de suite.
RTL.
Ferry Flamand. À 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Oriane nous écrit, les médecins représentent une figure d'autorité pour moi. J'ai du mal à leur dire ce que je pense. J'estime qu'ils savent mieux que moi et quand en plus ils sont froids, je suis littéralement tétanisée. Ils ont un tel pouvoir. J'aimerais un peu plus d'humanité et de psychologie, ce que je trouve chez ma dermato et mon gynéco par exemple, mais pas chez les autres. Je m'y rends toujours avec la boule au ventre. Ça vient d'où ça se base sur quoi, docteur Antoine Piau, notre relation aux médecins?
Alors, la relation au médecin, c'est avant tout une relation humaine qui, des fois, matche et des fois, qui ne matche pas. Et là, ce qu'elle nous décrit, c'est très représentatif. Et on parle souvent, à tort, entre médecins, des bons et des mauvais patients. On ne devrait pas faire ça. Mais clairement, des fois, on dit, bon, aujourd'hui, j'avais des patients super faciles, ça s'est super bien passé. Ou alors, aujourd'hui, j'avais des patients affreux, ils m'ont épuisé, j'étais au bout du rouleau à la fin de la journée. Et je pense que ça, c'est une erreur majeure. Parce que typiquement, quand on est un bon patient, potentiellement, on est mal pris en charge. Et là, c'est un bon exemple, c'est-à-dire elle est docile entre guillemets, elle n'ose pas dire ce qu'elle a sur le cœur, elle n'exprime pas ses vraies demandes, donc le recueil d'informations il sera faussé et potentiellement il sera mal pris en charge.
Docteur Beaulieu, parfois on voit des patients qui n'osent pas en demander davantage ou demander de la part du médecin une certaine pédagogie. Expliquez-moi ce que j'ai, expliquez-moi comment ça se passe dans mon corps, donnez-moi les clés pour que je comprenne moi-même. Parfois on ressort, on n'en sait pas plus, quoi. On sait qu'on est malade mais on n'en sait pas plus.
Bien sûr, et c'est très dommage parce que c'est quand même notre métier avant tout, c'est d'informer les gens. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas les papas, les mamans, on leur doit une information claire et avant tout, ils viennent nous consulter pour obtenir cette information. Mais si je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit.
Je vous en prie.
Quand on voit par exemple 30 patients dans la journée, on rentre le soir et tous leurs visages peuvent parfois un petit peu se confondre, Flavie. Et c'est normal parce que nous sommes humains. Mais le patient, lui, il n'a vu qu'un soignant. Et si nous lui avons manqué de respect ou commis un acte de maltraitance médicale, par exemple, il s'en souviendra toute sa vie. Alors, nous devons être dignes de ça. C'est très important. Et puis, petit aparté, vous savez, tout médecin qu'on soit, nous restons humains. Et donc, on lit à l'image de l'humanité. Et il y a autant d'imbéciles dans la population médicale que dans la population générale.
C'est tellement vrai.
Oui, mais alors, donc, il y a des bons médecins. Est-ce qu'il y a aussi... On peut revenir là-dessus, quand même. On peut s'interroger. C'est-à-dire que nous, en tant que patients, est-ce qu'on peut être un mauvais patient aussi, docteur Beaulieu? Non, mais c'est important. quand même.
Oui, ben, je crois surtout que parfois les
que tout le monde se fasse une petite introspection dans cette relation.
C'est pas forcément ce qu'on croit, les mauvais patients. Peut-être que justement, le patient qui interroge, qui remet en cause, qui discute, c'est ça le bon patient. Et peut-être pas le patient qui dit oui à tout.
Ouais. Docteur Beaulieu.
Et oui, puis parfois, vous savez, les patients tirent le mauvais numéro ou simplement le mauvais horaire, parce que je suis pas le même médecin selon qu'on soit le lundi matin ou le vendredi soir.
Tu m'étonnes.
Et c'est ce qui fait que je suis humain et pas un robot.
Oui, je comprends.
Absolument.
Ouais, mais c'est ça. Bonjour Karine.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Merci pour votre patience. On va surtout prendre le temps après, hein, mais je voulais quand même vous accueillir et vous rassurer. Vous allez intervenir sur cette antenne. Vous pensez effectivement que le médecin est une figure d'autorité?
Exactement, oui, dans le sens où c'est lui qui a étudié la matière et qui devrait savoir, un peu comme on a la relation avec nos parents. Donc quelque part, on sent obligé de le croire aveuglément.
C'est ça.
Sauf que mes propres expériences au fur et à mesure de ma vie me font de plus en plus réfléchir, quitte à des fois à prendre un deuxième avis.
Ah, bah tiens, on y reviendra.
Oui,
ne bougez pas, Karine. Vous avez déjà attendu, pardonnez-moi, mais on va se retrouver dans un instant. À tout de suite.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Anthony nous dit que les médecins l'impressionnent. Bah dites donc, Anthony, moi j'en ai deux avec moi aujourd'hui. Et avec vous, docteur Pio et docteur Beaulieu. Karine, vous vivez en Belgique. Et vous nous expliquez il y a un instant que, effectivement, on s'en remet à nos médecins. On doit s'en remettre d'une façon aveugle. Et que votre parcours, vous, vous avez aujourd'hui 52 ans, vous pousse désormais à prendre un deuxième avis.
Oui.
Est-ce à dire qu'il vous est arrivé parfois des couacs?
Tout à fait. Donc, comment est-ce que je pourrais dire, ma doctoresse ici, par exemple, n'a pas cherché plus loin la dernière fois que je l'ai vue. Et j'ai choisi alors de changer carrément de médecin pour pouvoir me soigner. Donc, elle stagnait dans sa dernière décision au niveau de l'auscultation. Et au bout de quelques mois, il n'y avait pas d'évolution.
D'accord. Et est-ce que ce deuxième médecin que vous avez vu vous a permis d'avancer comme vous l'espériez?
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Mais pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il n'y a pas une complémentarité, docteur Pio, aussi, à un moment donné
Entre le médecin et le patient
Non, et puis même parfois, pardon, mais entre plusieurs médecins. Enfin,
bien entendu.
Est-ce que parfois, quand on connaît presque trop bien un patient,
Mais aujourd'hui, la connaissance médicale évolue tellement vite, et le Covid en est l'immense et magnifique représentation, qu'on ne peut pas tout maîtriser, ça c'est clair et net. Et le deuxième avis dont on parle, c'était à une époque presque tabou, et maintenant... ça ne l'est absolument plus. Et en fait, il faut trouver le juste milieu entre se livrer totalement à une seule et une même personne et démultiplier les avis de manière anarchique, qui ça est très contre-productif parce qu'il y a énormément de pertes d'informations. Mais pour le coup, les décisions sont de plus en plus collégiales et d'ailleurs pas uniquement qu'entre médecins. Souvent, c'est médecins, kinés, assistantes sociales, c'est pluriprofessionnel.
Voilà.
Donc avant, c'était juste un mot-clé qu'on cassait pour faire joli. Maintenant, on commence à le mettre en œuvre.
Docteur Karine, est-ce que vous allez parfois sur Internet?
Ah oui, ça m'arrive.
Vous allez chercher des informations médicales sur Internet.
Voilà, mais alors, ce qu'il y a, je pose la question à mon médecin traitant pour avoir quand même son avis.
D'accord. Alors, docteur Beaulieu, est-ce que cet accès aujourd'hui aux informations médicales que l'on peut avoir, qui s'apparente à une forme d'automédication, hein, il n'y a pas la prise de médicaments, mais est-ce que ça vient perturber la relation que vous avez avec vos patients ?
Je mentirais en disant qu'il ne complique pas mon travail, mais il me paraît rien de plus légitime au monde pour une personne qui s'inquiète pour sa santé ou celle de ses proches d'essayer d'obtenir par elle-même des informations plutôt que d'attendre par exemple une semaine. Et ça me fait rire parce que nous les médecins, pour des sujets qu'on ne connaît pas et qui touchent nos proches, on est les premiers à appeler nos confrères, nos consoeurs en disant qu'est-ce que tu penses de ce grain de beauté que j'ai trouvé sur mon fils. Les patients, ils sont pas différents de nous, c'est exactement pareil. Et si je peux me permettre juste de rebondir, en France, il existe le libre choix du praticien. Et c'est un droit des patients qui est fondamental. Vous avez le droit de demander un deuxième avis, c'est votre santé, aucun médecin n'est à l'abri d'une erreur médicale. Donc ça, c'est très important. Et juste une petite anecdote humaine pour vous montrer la réalité de ce que c'est que mon métier. L'autre jour, une patiente est venue consulter. Je l'avais pas vue depuis plusieurs mois et j'ai découvert qu'entre-temps, on lui avait diagnostiqué un cancer du côlon. J'ai regardé sur l'ordinateur si elle n'avait pas déjà consulté pour des douleurs abdominales par le passé. Et je l'ai fait inconsciemment, Flavie. Mais parce qu'il y a une part de moi, quand même, qui voulait se disculper de toute responsabilité. Parce qu'au final, on est seul avec sa conscience et on est seul à vivre avec ça.
Très bien. On peut quand même dire que c'est pas, enfin, je sais pas, hein, docteur Pio, parce que bon, c'est normal d'aller chercher des informations sur Internet, mais enfin bon, c'est aussi une façon de s'allumer le traxir direct et parce que vous avez une connaissance qui vous permet à un moment donné de recevoir les informations. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il faut se méfier, quoi, enfin.
Alors, il faut se méfier, bien évidemment, et on a exactement la même problématique. Nous, c'est où aller chercher la bonne information. Mais oui. Et finalement, je pense que maintenant, on a un rôle d'accompagnant, c'est-à-dire, on doit apprendre aux patients à s'informer par eux-mêmes, c'est une très bonne chose, comme a dit le docteur Beaulieu, mais il faut qu'on les guide, qu'on les aide où trouver l'information fiable. Et finalement, ce qu'elle disait, c'était plutôt pertinent. Elle dit, je vais voir sur Google et j'en parle avec mon médecin. Donc c'est quelque chose qu'on fait ensemble et je trouve très honnêtement que c'est très sain.
Karine, je vous remercie d'être intervenue sur cette antenne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent depuis la Belgique et prenez bien soin de vous. Docteur Pio, on vous retrouve donc au magazine de la Santé, un mardi sur deux à 13h sur France 5. Aujourd'hui, dans notre studio. Je vous remercie d'être venu et votre livre, Quand je serai vieux, tout ira bien. C'est normal, docteur, que j'ai fait ce lapsus en début d'émission, on va en parler juste après. Quand je serai heureuse, tout ira bien. Voilà. Quand je serai vieux, tout ira bien. C'est aux éditions Hachette Pratique. Merci. Baptiste Beaulieu, merci votre vous. Prochain livre, Celle qu'il attendait, sortira chez Fayard. C'est quoi, c'est un roman?
C'est un roman que j'ai écrit pendant la crise et 100% sans Covid.
Ah, c'est pas mal. Donc, vous viendrez peut-être nous en parler. J'espère vous recevoir prochainement.
Plaisir.
Merci à vous, Baptiste Beaulieu, d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous, nous, demain, dès 14h30, en direct sur RTL. On se demandera si, en 2021, écoutez bien, on a ce que l'on appelle un devoir conjugal. Une femme, on vous racontera tout ça en détail demain, en France, vient d'être condamnée car, dit-on, elle ne le remplissait pas. C'est quoi remplir son devoir conjugal en 2021? Ça pose quand même question et on en parlera avec vous entre 14h30 et 15h30. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse.
RTL, on est fait pour s'entendre.